RJB Info.
Le journal, Anthony Montandon, bonjour.
Bonjour. L'église du Pascal à Bienne a bientôt fini sa mue. L'édifice est en rénovation et interdite au public depuis le 25 mars dernier. Elle avait été victime d'infiltration. On fait le point sur ce chantier dans quelques instants. Il y a 50 ans, l'homme marchait sur la Lune pour célébrer cet événement historique. Nous poursuivons aujourd'hui notre série spéciale avec le témoignage de l'un des astronautes qui a foulé l'astre quelques années plus tard. Il était de passage à Tramelan en 2014. Premier et unique contre-la-montre individuel au menu des cyclistes du Tour de France. Ils parcourront 27 km à Pau aujourd'hui. Cette épreuve se déroule à une date particulière, comme vous l'entendrez dans la page sport. Le soleil devrait rester caché par quelques nuages aujourd'hui. Des averses sont même possibles en fin de journée, mais très localement. Les températures, elles, sont agréables, comptées entre 25 et 28 degrés. Le chantier de l'église du Pascal à Bienne touche à sa fin. Les derniers travaux sont en cours sur la rosace sud. De la peinture doit également être appliquée à l'intérieur de la tour. La belle, qui date de 1904, s'est refait une beauté. Les parois extérieures ont été nettoyées et isolées, tout comme les vitraux. Les mécanismes des horloges ont été changés, mais surtout la statique du bâtiment est à nouveau assurée. Pour ce faire, toutes les poutres pourries ont été remplacées par des éléments en fer. L'architecte en charge du projet nous explique comment il s'y est pris et ce que ce chantier a représenté pour lui, Valérie Blazer.
On se trouve dans la base du toit. Et là, il y a ces éléments métalliques qui reprennent la traction qui vient d'en bas avec ces barres, qui reprennent cette traction et qui les mettent sur la base du toit de la tour. En plus, on a tendu avec des cordes métalliques encore un étage du toit. Donc on a repris la traction, on a monté d'un étage pour sécuriser encore plus cette tour pour qu'elle tienne face aux tempêtes futures.
Pour vous, comme architecte, j'imagine qu'un tel chantier, ça représente quand même un peu les travaux d'une carrière. Comment est-ce que vous avez vécu ça de votre côté ?
C'est vraiment un chantier exceptionnel. J'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Aussi sur l'échafaudage, avec cette vue fantastique sur, disons, tout le Seeland. Oui, j'ai passé des bons moments. C'est vraiment quelque chose de très touchant. Et puis, c'est dans une carrière d'un architecte, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel.
Il y aura votre nom maintenant dans les livres d'histoire ?
En tout cas, dans la boule, il y a une sorte de capsule de temps. Là, il y a des plans, on verra mon nom.
Ah, vous avez laissé quelque chose tout en haut ?
Oui, bien sûr, avec des photos, des plans, des écritures pour la prochaine étape. J'espère pas avant 50 ans, ils vont ouvrir cette capsule et trouver ce qu'on a fait maintenant.
Des propos recueillis par Joël Régli, le budget de 650 000 francs a été tenu. Les échafaudages seront enlevés en fin de semaine prochaine et vous pouvez retrouver une vidéo de la fin des travaux sur notre site internet. Les trains de nuit présentent un intérêt pour le canton de Berne. Il se dit prêt à prendre des contacts pour s'informer sur de potentiels développements dans le domaine. Le gouvernement répond ainsi à une motion socialiste portée par la députée Tania Bauer. Le texte relève que ce mode de transport est confortable et attrayant, mais que Berne a disparu de la carte des trains de nuit depuis que les CFF ont supprimé ce service. Si le canton partage cet avis, il n'a que peu de moyens d'action. Pour précision, Émilie Momentaler.
Les principales lignes de train de nuit partent de Zurich et sont opérées par les chemins de fer autrichiens. Si le canton de Berne joue un rôle clé dans la commande de transport local et régional, il a en revanche peu de moyens d'influence directe sur le transport national et international. Le conseil exécutif se dit toutefois disposé à s'informer auprès des CFF et de leurs homologues autrichiens pour voir si de nouvelles lignes intégrant Berne sur les axes ouest-est et nord-sud sont possibles. Il propose aussi de s'informer auprès de BLS au sujet d'une éventuelle entrée sur le marché des trains de nuit. Il se dit par ailleurs ouvert à des collaborations avec d'autres villes afin de mieux se positionner. Le gouvernement rejette en revanche l'idée d'un soutien financier à un tel projet, car le financement des liaisons nationales et internationales ressort des entreprises ferroviaires et pas de la Confédération ou des cantons.
Merci Émilie. Au vu de ce qui précède, le Conseil exécutif propose au Grand Conseil d'adopter la motion, à l'exception du point concernant le financement. Notez que le canton de Fribourg souhaite être associé aux réflexions. Ils sont 12 à avoir marché sur la Lune et l'un d'entre eux était de passage à Tramelan en juillet 2014. Edgar Mitchell était venu dans la région pour donner une conférence. L'ancien astronaute américain décédé en février 2016 avait participé à la mission Apollo 14 en 1971. Il était le sixième homme à avoir pu observer la Terre depuis la Lune. Rencontré en marge de cette conférence, Edgar Mitchell nous avait confié que cette expérience l'avait marqué à jamais. À l'occasion des 50 ans du premier pas sur la Lune, nous vous proposons de redécouvrir son témoignage.
All of the people that went to the moon and have looked at Earth
from space have been profoundly affected by.
Tous les gens qui sont allés sur la Lune et ont regardé la Terre depuis l'espace ont été profondément affectés. Nous appelons ça le Big Picture Effect, l'effet grande image, ou l'Overview Effect, l'effet de la vue d'ensemble. Ça change complètement votre manière de voir les choses lorsque vous voyez la Terre en plan large. On a tous vécu des expériences puissantes en regardant la Terre, et particulièrement une que j'ai vécue qui a provoqué un changement total de ma conscience. Pourquoi ? Nous ne le savons pas, mais on sait que nos ancêtres ont eu des expériences similaires quand ils regardaient de nouvelles partie de l'univers, depuis le sommet des montagnes par exemple, ou qu'ils découvraient quelque chose de nouveau. Tous ces changements de conscience et la manière dont ils interviennent, c'est de ça qu'il est question quand on parle d'évolution.
Des propos recueillis et traduits par Alexandre Steiner. Vous pouvez retrouver l'intégralité de notre série consacrée à la Lune et aux 50 ans de la mission Apollo 11 sur notre site internet. Et demain, vous entendrez des témoignages d'aînés de la région qui ont vécu l'alunissage derrière leur télévision. Un gilet pour sauver sa vie. Le Bureau de prévention des accidents lance une nouvelle campagne de sensibilisation. Le BPA insiste sur l'importance de porter un gilet de sauvetage lors de l'utilisation d'une embarcation gonflable. En Suisse, à peine 8% des passagers de ce type d'embarcation enfilent un gilet, alors qu'en moyenne, 5 personnes se noient chaque année en naviguant sur un lac ou une rivière. Dans sa nouvelle campagne, le BPA insiste donc sur l'importance de cet accessoire et en profite aussi pour donner 6 conseils essentiels aux amateurs de plaisir aquatique. Nicolas Kessler, responsable presse du BPA.
Le premier, c'est certainement le port du gilet de sauvetage à partir du moment où vous naviguez en rivière. N'oubliez pas que lorsque vous naviguez avec des amis et que vous avez plusieurs embarcations, il ne faut jamais les attacher ensemble. En cas de pépin, vous risquez d'entraîner les autres embarcations avec vous. Renseignez-vous si par exemple vous désirez aller à Berne descendre là, renseignez-vous sur internet ou sur un office du tourisme où vous pouvez entrer dans l'eau, où vous pouvez sortir. N'improvisez pas, on sait à quel point tout à coup les cours d'eau peuvent être dangereux. N'attachez pas les enfants au canot pneumatique. On pourrait avoir le réflexe de dire comme ça, s'il tombe à l'eau, nous pouvons les récupérer. Mais l'enfant peut aussi se retrouver sous le bateau, coincé sous une pierre, et c'est très dangereux. Se protéger de la chaleur et du froid, il y a de fortes différences de température hors de l'eau, dans l'eau, risque de choc thermique. Et puis certainement que lorsque vous avez passé un après-midi avec des amis, vous avez envie de boire un verre, de boire une bière, mais profitez pleinement de cette bière après avoir fait votre sortie et pas pendant. Le risque d'accident augmente avec la consommation d'alcool lorsque vous êtes sur l'eau.
Le BPA collabore également avec la Société Suisse de Sauvetage, la ville de Berne et sa police dans la campagne Are You Safe? Son but est d'insister sur le port du gilet lors des nombreuses descentes de l'art en bateau gonflable. Drame familial dans le canton de Zurich. Un homme de 53 ans a tué hier son épouse et leurs enfants de 7 et 9 ans avant de se suicider. C'est ce qu'indique ce matin la police cantonale zurichoise. Les circonstances ne sont pour l'heure pas encore claires. Les forces de l'ordre et le ministère public poursuivent désormais leur enquête. Refuser l'accès à un cinéma à un homme en fauteuil roulant pour des raisons de sécurité, ce n'est pas le discriminer. La Cour européenne des droits de l'homme a rejeté hier le recours d'un handicapé genevois. Une décision qui pourrait faire jurisprudence et placer dans leur bon droit les organisateurs de festivals et de manifestations qui ne prévoient rien pour les handicapés. C'est la crainte de l'avocate Caroline S. Klein, responsable de l'égalité à inclusion handicap.
C'est un peu le danger et c'est surtout en cela que réside notre déception, c'est-à-dire que dans le recours, nous avions essayé vraiment de convaincre la Cour qu'il ne fallait pas uniquement regarder le problème individuel, uniquement l'accès au cinéma, mais avoir une vue d'ensemble, c'est-à-dire c'est aussi l'accès à des festivals, à l'accès à la poste, à la banque, aux grands magasins, et que partout les personnes en chaise roulante sont confrontées à des discriminations. C'est une atteinte aux droits des personnes handicapées de participer de manière autonome à la vie en société. La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées garantit une participation autonome à la vie en société. La possibilité qui s'offre à nous maintenant, c'est que la Suisse va être examinée par le comité onusien des droits des personnes handicapées. Nous allons convaincre ce comité que la législation suisse ne protège pas suffisamment les personnes handicapées contre les discriminations issues de particuliers. Et je ne doute pas un seul instant que la Suisse sera critiquée par ce comité et qu'on lui conseillera de changer sa législation.
À l'étranger, les pourparlers sont repoussés entre les militaires et les contestataires au Soudan. Les deux camps devaient se rencontrer pour finaliser un accord sur le partage du pouvoir depuis la chute du président Omar el-Béchir. Un dirigeant de la contestation affirme avoir besoin davantage de temps pour mener des consultations en vue de trouver une position unique avec les siens.
Et à l'écoute d'RJB, il est midi 25.
Sport.
C'est la journée des spécialistes du chrono aujourd'hui sur le Tour de France. 13e étape avec un contre-la-montre à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Un tracé de 27 km avec au milieu une côte à 7% de moyenne. Le français Julian Alaphilippe s'élancera en jaune, mais les cadors de cette grande boucle pourraient sortir de leur boîte avant de s'affronter dans la montagne. Une journée qui sera d'ailleurs historique pour le Tour de France. Petit rappel avec notre confrère de RMC Sport, Arthur Perrault.
19 juillet 1919, à l'occasion de cette 13e étape réservée au contre-la-montre individuel, le Tour de France fête le maillot jaune 100 ans jour pour jour après son apparition sur les épaules d'Eugène Christophe, lui qui avait perdu ce précieux sésame à la veille de l'arrivée finale. Un scénario dont le leader du classement général de cette 106e édition voudrait bien s'acquitter, même s'il aura la chance de porter une tunique collector confectionnée dans la petite usine de Romilly-sur-Seine. Bref, une journée si particulière qui pourrait bien donner des idées à un coureur complet, puis mais aussi à l'aise quand la route s'élève, le tout dans un cadre paisible à Pau avec une rampe de lancement au bord du ruisseau de Luce, un tracé qui avait réussi au Suisse Karl Litschi le 18 juillet 1939, champion national en titre. Il était régulièrement cité comme l'homme à suivre, une distinction dont n'avait pas besoin Bernard Hinault. C'est d'ailleurs dans la cité paloise qu'il avait remporté sa 3e victoire sur la grande boucle ce jour-là. Il reprit le maillot jaune à Phil Anderson. Reste à savoir si un membre du peloton l'imitera aujourd'hui lors de cet anniversaire, pas comme les autres.
Et le premier départ de ce contre-la-montre sera donné à 14h, dernière arrivée prévue juste avant 18h. Et enfin, la boxe suisse a perdu l'un de ses plus grands champions. Enrico Scacchia est décédé à Berne à l'âge de 56 ans des suites d'un cancer. Il s'était affirmé dans les années 80 comme un boxeur spectaculaire avec 41 victoires pour 3 nuls et 8 défaites. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Très belle journée et surtout un bon week-end.
Et à vous aussi, un bon week-end, Anthony Montandon. Il flotte comme un air de déjà vu. Le temps sera encore une fois plutôt ensoleillé avec quelques voiles d'altitude encore présents. Ensuite, des cumulus vont se développer dans le Jura au fil des heures. Mais normalement, pas de risque orageux ou alors très localement. Concernant les températures, elles sont toujours estivales. 26 degrés dans la vallée de Tavannes selon Météo News. Maximum 28 degrés à Moutier, tout comme dans le Seeland. Pour demain, le temps sera à nouveau plutôt ensoleillé malgré un ciel voilé par moments. Mais les températures resteront chaudes. C'est en soirée que des averses pourraient réellement se déverser à toutes les altitudes, accompagnées pourquoi pas de quelques coups de tonnerre.